RCF. RCF, il est 19h. La rédaction vous présente le journal.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, nouvelle escalade dans la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes pour étoffer les rangs et a brandi la menace nucléaire. On y revient dans ce journal. Depuis la tribune de l'ONU, Joe Biden et Emmanuel Macron n'ont pas tardé à réagir. Ils ont dénoncé l'attitude de la Russie et appelé la communauté internationale à mettre la pression sur Vladimir Poutine. Et puis on entendra le témoignage fort de Gilles Gambéry. Cet homme de 61 ans avait tenté d'arrêter le terroriste sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Il a témoigné aujourd'hui au procès des attentats de Nice. La Russie brandit de nouvelles menaces envers l'Occident. Ce matin, Vladimir Poutine a affirmé qu'il utilisera tous les moyens possibles, y compris l'arme nucléaire, si l'intégrité territoriale de la Russie est menacée. 300 000 réservistes vont par ailleurs étoffer les rangs de l'armée russe en Ukraine. Carole Grimaud, analyste géopolitique et spécialiste de la Russie, décrypte ces annonces.
Cette annonce a fait l'effet d'un choc en Russie, même s'ils s'attendaient, ils s'attendent depuis longtemps, depuis le début du conflit. Cette ombre de la mobilisation plane depuis quelques semaines. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est une échappée, je dirais, pour ceux qui le peuvent. Les avions sont tous complets pour sortir de la Russie, donc il y a de nombreuses personnes qui partent quand elles le peuvent encore. C'est un choc pour ceux qui étaient contre la guerre, bien évidemment. Il y a des manifestations qui se planifient donc pour aujourd'hui et les jours suivants à Moscou, malgré les interdictions, malgré les peines encourues. Et puis, vous avez une partie de la population qui se réjouit, qui appelait à la mobilisation depuis longtemps et qui se réjouit de voir que la Russie entre véritablement dans une « guerre », entre guillemets, même si le mot n'est toujours pas prononcé. Mais effectivement, c'est un cran supplémentaire.
Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir aux propos du président russe dans l'après-midi. Il a appelé la communauté internationale à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine.
Je regrette évidemment profondément le choix fait par le président Poutine ces dernières heures d'appeler à la mobilisation partielle et d'entraîner son pays, et en particulier la jeunesse de son pays, dans la guerre. Nous avons besoin de paix parce que nous avons d'immenses défis d'ores et déjà à relever. Je note aussi qu'après l'Inde, c'est la Chine qui ces dernières heures a appelé au cessez-le-feu. Et donc aujourd'hui, la Russie est de plus en plus isolée et est en train de s'engager de plus en plus dans une guerre qu'elle est au fond seule à vouloir et qui est illégale et illégitime. Et donc j'en appelle à la raison et à la paix, que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je souhaite que nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux pour appeler au cessez-le-feu et à la paix, qui est la seule voie acceptable dans ce conflit. Et je pense que toute escalade même verbale ne mène à rien.
De son côté, la Maison-Blanche a dit prendre cette menace au sérieux. Le président américain accuse la Russie, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Autre intervention dans l'après-midi, celle du président iranien. Ebrahim Raisi a affirmé que l'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire alors que les discussions sur cet accord sont au point mort. Et puis, hasard du calendrier, cette grand-messe politique avait lieu le même jour que la Journée internationale de la paix. Sur fond de guerre en Ukraine, le mouvement de la paix a organisé en Savoie une marche pour la paix et la justice sociale. On écoute Roland Gardien du comité Montbélian pour la paix.
La première des choses, c'est le cessez-le-feu et l'arrêt des combats, puis la réparation des dommages, et enfin la traduction, par exemple, de Poutine devant un tribunal international. Mobiliser, c'est toujours très difficile, mais je trouve que la première des choses, c'est informer. Nous distribuons des tracts, nous faisons de l'information autant qu'il est possible. La marche pacifique est faite pour demander aux gens de réfléchir, et de lire les informations, c'est important.
Deuxième marche prévue à Chambéry ce samedi, au départ du quai des Allobroges. La CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, publie aujourd'hui une synthèse des témoignages qu'elle a reçus depuis le lancement de sa cellule d'écoute de victimes. En un an, elle a reçu plus de 16 000 témoignages. 9 victimes sur 10 sont des femmes. 80% des agressions sont commises sur des enfants de moins de 5 ans au moment des faits. Des crimes qui ont un impact durable tout au long de la vie, nous explique Édouard Durand, le président de la CIVISE.
L'impact extrême et durable des violences sexuelles faites aux enfants, non seulement pendant le temps de l'enfance, mais aussi pendant toute la vie adulte. Il ne s'agit pas d'un souvenir lointain, d'un mauvais souvenir, mais de ce que j'appelle un présent perpétuel de la souffrance qui s'immisce dans toutes les sphères de l'existence. Les conséquences des violences sexuelles, les cauchemars même pendant la journée. Un enfant me disait « je fais des cauchemars même quand je dors pas ». Les conduites d'évitement, ne pas pouvoir sortir de chez soi, ne pas pouvoir aller à l'école, ne pas pouvoir travailler, les difficultés de concentration, les troubles des conduites alimentaires, l'anorexie ou la boulimie, les addictions même aussi dans des proportions importantes. 30 à 50% des personnes qui ont subi des traumatismes graves ont des conduites addictives par lesquelles elles recherchent une anesthésie émotionnelle. Et donc, il est nécessaire d'adapter notre dispositif de soins pour soulager cette souffrance.
Aujourd'hui encore, 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles chaque année. La CIVISE rappelle à l'occasion de cette synthèse quelques préconisations, le repérage systématique, la création d'une cellule de soutien pour les professionnels, le remboursement des soins spécialisés ou encore la lutte contre la cyberpédocriminalité. Valse de rendez-vous aujourd'hui à Matignon. Elisabeth Borne a rencontré les présidents de groupe à l'Assemblée pour évoquer un sujet délicat, la réforme des retraites. La première ministre continue d'appliquer sa méthode du dialogue. Elle espère déminer une session sur les retraites qui s'annonce musclée et dont la date n'a pas encore été fixée. Seul absent de ces rendez-vous, Julien Bayou, le coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée, s'est mis en retrait de ses fonctions après les accusations de violence morale qu'il aurait eues sur son ex-compagne. Le député écologiste reste malgré tout chef du parti et coprésident du groupe, a précisé Sandra Régol, la vice-présidente des élus écolos. C'est un soir dont il se souviendra longtemps. Le 14 juillet 2016, Gilles Gambéry tentait d'arrêter le terroriste au volant du camion Bélier sur la promenade des Anglais. L'homme de 61 ans a raconté ce terrible moment devant la cour des assises spéciales de Paris. On l'écoute au micro de notre journaliste Steve Lange et Zygostovitch.
Je ne pensais pas que c'était un acte terroriste. Et c'est arrivé sur le camion. À deux reprises, j'ai essayé d'ouvrir depuis le sol la portière du camion. Je n'y suis pas arrivé. Je suis monté sur le marchepied. Et quand j'ai eu mon visage à la hauteur de la fenêtre, j'ai une arme qui m'est sortie devant. Je me suis débattu avec la personne à l'intérieur. J'ai compris de suite que là, c'était plus un accident, quoi. J'ai essayé de lui arracher le pistolet, mais je suis pas arrivé. Et quand je me suis précipité au sol pour me mettre à l'abri, j'ai entendu deux coups de feu. Je savais pas s'il m'avait tiré dessus ou dans une autre direction. Et c'est qu'à l'arrière du camion que j'ai pu vérifier que déjà, j'étais pas touché. J'ai essayé de voir de quel côté il allait sortir du camion, et voyant qu'il sortait pas, je me suis précipité direction Nice Ouest, et j'ai rencontré un policier qui arrivait en courant avec une arme à la main, donc je l'ai stoppé en lui indiquant que je venais de me faire tirer dessus, qu'il était armé. Donc je lui ai indiqué la position que je pensais qu'il occupait dans la cabine du camion, et il a fait feu à de multiples reprises dans la cabine.
Les prises de parole des parties civiles vont se poursuivre. Le procès doit durer jusqu'au 16 décembre. La pilule du lendemain sera bientôt accessible à tout âge, de manière gratuite et sans ordonnance. C'est l'annonce faite par François Braun au journal 20 minutes. Le ministre de la Santé veut faciliter l'accès des femmes à la contraception d'urgence. Jusqu'à maintenant, seuls les mineurs pouvaient y accéder gratuitement et sans ordonnance. Ce sera désormais le cas pour les femmes de moins de 26 ans. Autre annonce faite par le ministre, l'ouverture du dépistage gratuit de toutes les infections sexuellement transmissibles jusqu'à 26 ans. Les gobelets en carton et les fourchettes jetables, c'est fini dans les cafétérias des universités. Depuis lundi à Lyon, Roanne et Saint-Étienne, les étudiants sont invités à ramener leurs couverts et contenants pour pouvoir acheter un café ou un thé. Une nouvelle habitude à prendre puisque cette mesure va se généraliser l'année prochaine dans le cadre de la loi Egalim. Les détails avec Charlotte Mangibaud.
dans l'une des cafétérias de l'Université catholique de Lyon. Une vingtaine d'étudiants attendent de commander leur café avant le début des cours.
Je veux prendre un cookie avec un café, s'il vous plaît.
Mais ce matin, les prix ont changé. Il faut payer plus pour avoir un gobelet en carton, un gobelet jetable. Derrière le comptoir, Ludovic doit servir et faire preuve de pédagogie.
Par contre, vous savez que les gobelets deviennent payants. En fait, c'est la loi Egalim pour réduire les déchets alimentaires et non alimentaires. Donc tout ce qui est jetable, les gobelets, les couverts, ça sera 50 centimes en plus.
Ok, allez, parfait.
Ça vous dérange pas trop de payer 50 centimes en plus?
Bon, si c'est qu'une fois, ça va. Pour les prochaines fois, si c'est...
Demain matin, cet étudiant ramènera une tasse ou une gourde pour ne pas payer de surcoût. Une mesure incitative pour diminuer les déchets. Alicia Tréposviel, directrice de la communication du CRUS de Lyon.
C'est vraiment sur le volume des déchets, le retraitement des déchets derrière. Et aussi pour inciter les étudiants de manière générale, parce que nous, on le met en place là maintenant, peut-être un peu en avance. Mais la loi va l'imposer beaucoup plus largement à beaucoup de commerces qui font le même type de vente que nous.
À partir du 1er janvier 2023, les couverts non réutilisables en cas de consommation sur place, dans les restaurants du CRUS, mais aussi dans tous les autres restaurants, seront interdits.
Ce sera tout. Bonne journée.
Reportage de Charlotte Mangibaud. Les 10% des Français les plus pauvres développent trois fois plus souvent un diabète que les 10% les plus aisés. C'est le constat révélé par une étude de la DRES, la Direction de la Recherche des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. Des inégalités sociales dans l'accès aux soins qui s'observent dès le plus jeune âge. Deux fois plus d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadres se retrouvent par exemple en surpoids en grande section de maternelle. Et puis prudence si vous avez acheté des bouteilles de lait Candia. La marque rappelle ses bouteilles Baby Junior 4 pour les enfants âgés de 20 à 36 mois. Selon le site Rappel Console, des consommateurs ont fait remonter des problèmes d'étanchéité et des anomalies de conditionnement. Des microfuites peuvent survenir et altérer la qualité du lait. Roger Federer et Rafael Nadal vont jouer ensemble pour disputer un match en double vendredi à Londres. Opposés pendant des années dans la course au titre, ce match côte à côte est tout un symbole. Il fera office d'au revoir pour le champion suisse. C'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 6h30 demain matin avec Thomas Dulin et Clara Gabillet. Bonne soirée.